France Culture.
Depuis 2 ans et demi, un homme de Chicago tente de livrer une guérilla à lui tout seul contre la pollution. Il se fait appeler The Fox. Entre autres choses, il est entré dans les bureaux d'une compagnie de production d'acier pour y déverser des eaux polluées que l'usine répandait dans les cours d'eau. Il est devenu un héros local, en quelque sorte.
Mr. Fox manifeste d'un éco-saboteur.
Le Fox dit qu'il s'est nommé en référence à la rivière Fox qui traverse le nord de l'Illinois, à l'ouest de Chicago. On raconte qu'il vivrait quelque part dans cette vallée et qu'il apprécie le grand air. Il arrive à échapper à la police et aux détectives qui le recherchent.
Premier épisode, un renard contre l'industrie chimique. Un documentaire de Lila Bozès et Jean-Philippe Navarre.
Comment a débuté votre combat inhabituel contre la pollution?
Je dirais que les choses ont commencé à cause d'une frustration et d'un sentiment que beaucoup de gens ressentent ici en voyant leur environnement être souillé, détruit, crucifié au nom du profit et en se sentant impuissant face à ça.
Comment avez-vous choisi les tactiques que vous avez utilisées? Balancer des eaux polluées dans les bureaux des grandes entreprises, etc.
C'est là que les décisions sont prises. Les gens n'ont pas exposé les cadres d'entreprise aux conséquences de leurs activités. Quand nous prenons les déchets produits par ces gens et que nous les leur rapportons, que nous les leur montrons, cela fait une impression.
Avez-vous peur parfois d'être arrêté?
À chaque fois que j'agis, je me dis que c'est possiblement la dernière fois.
Donc, nous entendrons encore parler de The Fox dans le futur?
Certainement.
Merci et bonne nuit. Use Ajax, the foaming cleanser.
Clean pots and pans, just like a wizard. Les années 60, c'est ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses. Donc, c'est une période d'expansion économique très forte aux États-Unis.
Jean-Daniel Colomb est spécialiste des États-Unis à l'université Lyon 3.
À la fois, on a un pays qui s'enrichit considérablement, qui voit sa classe moyenne croître très rapidement et qui voit également les effets délétères du développement économique sur l'environnement. Et c'est symbolisé notamment par des sortes de désastres environnementaux qui retiennent l'attention du public.
Depuis le milieu des années 1940, plus de 200 produits ont été créés pour tuer les insectes, les mauvaises herbes, les rongeurs, tout ce que le jargon moderne appelle les nuisibles. Sprays, poudres, aérosols sont utilisés presque universellement dans les fermes, les jardins, les forêts, les maisons. Ce sont des produits qui éteignent le chant des oiseaux, coupent l'élan des poissons dans les rivières et enduisent les feuilles d'une pellicule mortelle. On a pris tous ces risques, à quelle fin ? Les futurs historiens seront peut-être confondus par notre folie.
On a un paysage, on va dire, on a un pays qui est particulièrement détruit, abîmé par l'ingérence des grandes entreprises américaines.
Victor Cachard est historien du sabotage.
On a évidemment la question de la guerre, avec des centaines de milliards de bombes qui sont balancées sur le Cambodge par les États-Unis, des constructions de structures gigantesques pour le divertissement à l'initiative de Walt Disney, pour construire à la place de parcs naturels des grandes stations de ski. On a des catastrophes pétrolières régulières, notamment la catastrophe de Santa Barbara. On a aussi des rivières qui prennent feu parce que des huiles inflammables sont déversées.
Il y avait un étrange silence dans l'air. Les oiseaux, par exemple, où étaient-ils passés? Ils ne venaient plus picorer dans les cours. Les quelques survivants paraissaient moribonds. Ils tremblaient sans plus pouvoir voler. Ce fut un printemps sans voix.
Printemps silencieux, c'est avant tout un livre sur les pesticides. Un pesticide en particulier, le DDT. Et sur les ravages qu'il provoque, surtout chez les animaux sauvages. Et particulièrement les oiseaux. Pour prendre l'exemple des pygargues, on a observé que leurs coquilles d'œufs devenaient de plus en plus fines et que les petits ne survivaient pas. Tout ça à cause du DDT.
Keith Woodhouse est professeur d'histoire à l'Université de Chicago.
Et donc, il y avait cette peur que le DDT remonte la chaîne alimentaire et finisse par s'accumuler et se retrouver dans nos propres corps. C'était connu comme étant un cancérogène potentiel. Ça avait été prouvé chez certains animaux. Et à forte concentration, il pouvait aussi affecter les humains. Le titre « Printemps silencieux » émane de l'image d'un printemps sans chants d'oiseaux. Une saison où les oiseaux auraient disparu à cause des pesticides.
Mais je pense que la plus idée of Silent Spring that really made it into
mais ce qui en a fait un livre jalon dans l'histoire de l'écologie
was probably twofold. One was a greater and greater concern.
C'est sans doute deux choses. D'abord, la prise de conscience que la pollution n'était pas seulement lointaine dans les grands espaces sauvages, mais aussi ici, près de nous, dans les banlieues, les villes, les jardins, les maisons, jusque dans nos propres corps.
Number two is that I think Silent Spring really inaugurated.
Et puis le deuxième élément, c'est que Printemps silencieux a marqué le début d'une époque où l'écologie s'est de plus en plus intéressée aux menaces invisibles, omniprésentes.
So the kinds of pollution that
des pollutions qu'on ne voyait pas,
see,
mais qui étaient partout.
And yet they existed everywhere.
Des produits chimiques qui circulaient dans les écosystèmes, qui remontaient les chaînes alimentaires et qui pouvaient causer d'immenses dégâts.
J'ai alors découvert un micro-désastre. D'une rive à l'autre, du barrage jusqu'à l'égout, l'eau était pleine de morceaux de savon. En regardant dans la mare, mon cœur s'est effondré. Flottant la tête en bas, leurs pattes oranges mortellement détendues, se trouvaient une mère colvert et tous ses canetons. Le choc d'un tel carnage m'emplit de tristesse, puis de rage. Salopards cupides, bande de salopards ignorants et cupides, ai-je lancé en serrant les dents. Pour la première fois de ma vie, je commençais à m'éloigner de la légion des citoyens respectueux de la loi pour entrer dans le royaume de celles et ceux qui ressentent le besoin instinctif de suivre un autre ensemble de lois. Peut-être supérieure aux lois écrites.
There was a fair amount of scattered but notable.
Dès la fin des années 60, il y a eu pas mal d'actions directes liées à l'écologie, un peu éparpillées mais marquantes.
And a lot of it was reported in the alternative press.
Beaucoup étaient relayés par la presse alternative. Des fanzines lus par des militants ou des gens alternatifs de la contre-culture.
Publications were reporting on activists who were chopping down
billboards. On y racontait par exemple que des activistes abattaient des panneaux publicitaires dans le Michigan ou déversaient des colorants en Floride pour que les populations puissent suivre à l'œil nu le trajet des eaux polluées dans les rivières. Et puis surtout, il y a eu le célèbre renard, the fox.
Alors le phoque, celui qu'on appelle le phoque, c'est un nom un petit peu fumeux, vaporeux, c'est volontaire de sa part. L'idée est de rester dans l'anonymat et de prendre le nom d'une rivière en fait, parce que phoque, on a longtemps ignoré quelle était son identité. En réalité, il s'agit de James Phillips, donc qui est né en 1930 et est mort en 1999. Donc James Phillips se fait appeler phoque et commence à agir individuellement comme ça.
Alors qu'ai-je fait ? Essentiellement, j'ai triché ou joué avec la loi. Pas une fois, mais de très nombreuses fois, délibérément et avec préméditation.
C'est un professeur de biologie qui vivait près de Chicago, de mémoire, aux États-Unis.
Anaël Châtaignier est auteur du livre « Éco-sabotage ».
Et qui était un personnage plutôt virgilien, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une affection pour le vivant, dans un rapport presque un peu contemplatif. Et il aimait prendre son canoë, se balader sur la petite rivière Fox, qui n'était pas très loin de chez lui, qui était un ascendant de Mill Creek. Il avait un rapport comme ça, extrêmement bucolique, mais en même temps rageusement bucolique. Il prend son canoë, il va sur la rivière Fox, et là, donc, il tombe effectivement sur les déchets polluants, un peu stagnants, puis il voit des poissons morts par milliers.
Les animaux à branchies ont été éliminés en premier. Les larves de libellules, les crustacés, les palourdes, les têtards et les corps d'alevins de bar flottaient, se décomposaient et vicier l'eau. Les amphibiens adultes et les animaux respirant à l'air libre ont été les derniers à partir. Au moins, ils pouvaient ramper hors des déchets liquides pour respirer un peu.
Il remonte à la source de la pollution, il voit comme il est biologiste, il a une façon de penser de cause à effet qui fait que très rapidement il comprend. Voilà, il fait une enquête, il fait une recherche.
Il tombe sur donc les tuyaux d'évacuation d'une grande entreprise à l'époque qui s'appelait Armor & Co, qui correspond à Armordial, qui produisait des savons notamment, une grande entreprise américaine, qui là faisait du conditionnement pour de viande, de mémoire, et qui produisait ses propres détergents chlorés. Bien évidemment, tout était renvoyé directement dans la rivière, et ça a terrassé l'ensemble des écosystèmes.
Il part dans la nuit, tranquillement, et il va avec du ciment. Boucher, tout simplement, c'est vraiment rudimentaire, une canalisation qu'il a identifiée comme source de pollution.
Et certains diront que je sors de l'enfer, que je suis un dangereux, diabolique transgresseur de loi, un ennemi redoutable de la loi. D'autres diront que je l'ai juste un peu contourné, très légèrement. Une désobéissance civile justifiée, un mal nécessaire.
Donc là, il y a eu une espèce de rage, une réaction au fond assez saine. Il faut rappeler ce qu'on appelle sabotage, ce qu'on appelle éco-sabotage. C'est simplement parfois une réaction extrêmement saine d'être capable de briser le cycle des violences et de retrouver du pouvoir aussi sur une situation qui est fondamentalement injuste et sur laquelle on croit avoir perdu du pouvoir. Donc tout est bouché, tout est cimenté. Ça va être une galère incroyable pour l'entreprise.
He was angry enough about
Regardez la pollution. Contaminer un paysage qu'il aimait le rendait fou de rage. Et ce n'était pas une montagne lointaine, ni une grande forêt, ni un paysage spectaculaire. C'était son environnement de banlieue, là où vivaient les gens.
Une espèce de beauté, là encore, je trouve, dans la sincérité de cet engagement et dans cette conscience de la nature et du vivant, de ce qu'elle implique, de nos dépendances, et puis aussi de la manière dont on se construit dans une relation étroite avec elle et dans un certain respect.
C'est ça qui l'a poussé à se lancer dans une campagne clandestine d'action directe contre ceux qu'il considérait comme les grands pollueurs. Et de plus en plus d'entreprises sont devenues ses cibles. Mr. Clean gets rid of dirt and grime and grease in just a minute.
Mr. Clean will clean your whole house and everything that's in it. Monsieur Fox, le renard, justicier de l'écologie.
D'abord, c'est une défense. Quand on détruit la nature, on détruit nos capacités d'autonomie, on détruit notre capacité à nous approprier la notion de travail et de subsistance. Donc, c'est une autodéfense, c'est une réponse à une agression permanente.
Ce que l'on sait de Fox, c'est que c'est un militant opposé aux activités polluantes d'industrie lourde qui opère dans l'Illinois, dans la ville de Chicago, et qui mène des actions visant à dénoncer les pratiques polluantes de ces industries lourdes. Et on peut donner l'exemple, parmi les actions qu'il a menées, d'un épisode où il a réussi à déverser un liquide polluant et malodorant dans les bureaux de US Steel, donc le géant américain de l'acier, afin justement de dénoncer les effets des activités de cette entreprise sur l'environnement. Et là encore, on peut dire que c'est un exemple du recours à la désobéissance civile à des fins de protection de l'environnement et de contestation des pratiques polluantes.
The Aurora Beacon News, December 23, 1970. The Fox strikes downtown Chicago office of US Steel.
La police et les avocats de US Steel Corporation ont découvert sur la moquette blanche de leur bureau un mélange nauséabond déversé par un mystérieux militant anti-pollution connu sous le nom de The Fox. Le Fox affirme que la moquette était un endroit tout à fait approprié pour le liquide gluant. Selon lui, cette substance provient directement des égouts de US Steel à Gary. Après tout, c'est ce qu'ils mettent dans nos lacs et nos cours d'eau. Il continue à dire qu'il ne pollue pas vraiment notre eau. Si c'est vrai, ça ne devrait pas faire de mal à leur tapis, n'est-ce pas?
Le Fox est un individu qui représente bien le phénomène des super-héros de la vie quotidienne aux États-Unis, qui sont en fait des personnes lambda, des justiciers, très liés au monde de la bande dessinée, des redresseurs de tort, qui face à un état capitaliste failli, ben en fait, ce n'est que dans la société civile qu'on va pouvoir trouver quelques ressources.
Dans les années 60 aux États-Unis, on voit poindre un mouvement qu'on appelle aujourd'hui la contre-culture, qui est également assorti de la nouvelle gauche. Donc on pense ici au mouvement contre la guerre du Vietnam, contre la ségrégation raciale par exemple. Et il y a tout un foisonnement de militantisme durant cette période-là. Et cette période se termine plus ou moins dans la violence et la confusion au début des années 70. Mais les militants, les citoyens qui ont été, la plupart d'entre eux assez jeunes, impliqués dans ces mouvements, ne disparaissent pas, ils se diffusent dans la société, certains deviennent universitaires, d'autres rejoignent le système éducatif, et d'autres encore deviennent des militants environnementalistes. Harold Fox, je l'ai croisé très furtivement, et d'ailleurs, c'est tout à fait naturel, parce que lui-même n'a jamais été arrêté.
J'ai bouché des cheminées, comblé des égouts et accroché des pancartes. J'ai distribué des affiches, détérioré des marchandises et déversé des eaux usées et des poissons pourris dans des bureaux d'entreprise.
Il lance finalement un espèce de personnage comme ça, justicier public, écologiste. Et donc là, on a vraiment aux États-Unis, en 1969, la première figure de l'écotage, l'éco-saboteur chez Fox. Et donc Fox est le précurseur de cette action directe, non violente, écologiste.
J'ai également déposé, accroché, transporté et déversé, oui, déversé, davantage de moufettes mortes dans des endroits particulièrement inhabituels que quiconque à ma connaissance. Je suis probablement la seule personne en Amérique du Nord à considérer une moufette tuée sur la route comme une ressource naturelle.
Le terme écotage apparaît en 1972. Date à laquelle il est introduit dans le dictionnaire anglais, terme qui allie à la fois la pratique des syndicalistes contre l'outil de travail et en même temps une dimension, une coloration un petit peu plus orientée vers la défense de l'environnement. On a une définition du sabotage qui nous vient du milieu insurrectionnel français à la fin du 19e siècle. C'est un terme argotique qui ne désigne absolument pas la chaussure en bois, mais qui vient de l'argot populaire des bas-fonds parisiens, des quartiers Saint-Antoine. Être un sabot signifiait être un mauvais travailleur, traîner ses savates, ralentir la cadence, travailler de mauvaise grâce. Ensuite, on a une deuxième définition du sabotage qui nous vient cette fois de la réception. Qu'en font les syndicalistes américains? Et donc là, par une espèce de confusion dans la traduction des termes, pour eux, c'est identifié à la chaussure en bois, qui est très rapidement utilisée pour bloquer l'engrenage de la machine. Et donc on voit bien qu'on passe d'une définition pacifique à une définition beaucoup plus offensive qui vise à s'apprendre à l'outil de travail.
L'action directe, c'est quoi? C'est cette idée que pour résoudre un problème, on ne va pas passer forcément par l'intermédiaire d'un représentant, d'un député. On ne va pas forcément faire acte de plaidoyer, de pétition ou de forme comme ça, de revendication symbolique. Mais on va résoudre le problème concrètement.
Alors le Fox, lui, ce qui l'intéresse, et on trouve ça dans l'idée même du sabotage, dans la définition, c'est de dire en fait la question politique, la question politicienne qui relève des dates qui nous dominent, etc., elle est moins importante que ce qu'on gagne au moment où on a agi. On ne sabote pas pour avoir une affiche, une visibilité politique, mais pour, sur le terrain, répondre à une nécessité et un problème concret. Et une fois qu'une canalisation est cimentée et bloquée, on a gagné. Thursday's raid was not the first in the Fox's personal crusade against firms he feels are fouling the environment. His earlier efforts, however, have aimed at clogging sewage drains and smokestacks in South Chicago. Petit à petit, des journalistes s'en emparent, c'est la masse média qui commence à faire pression auprès des responsables politiques. Et là, effectivement, il y a des décisions qui sont prises qui vont interdire à des entreprises de déverser n'importe quel polluant dans la nature.
Nombre de mes petites guerres n'ont duré que le temps d'un raid. D'autres ont duré plusieurs années. J'en ai gagné plusieurs, j'en ai perdu d'autres. Et certaines ont été annulées par la pluie.
Some of these activists...
Au départ, les actions de cette frange militante n'étaient racontées que dans des fanzines ou revues confidentielles, lues principalement par d'autres activistes. Mais les exploits du Fox ont su capter l'intérêt de Mike Royko, un journaliste célèbre qui écrivait pour The Chicago Tribune. Et soudain, un large public a découvert ses faits d'armes. Aussi parce qu'il avait un sens de l'humour. Il menait ses coups de manière à ridiculiser les entreprises, tout en attirant l'attention. Comme quand il répandait des substances polluées jusque dans les bureaux de ces sociétés. Ça allait forcément faire réagir la presse. Et ce qui frappe, en relisant les articles de l'époque, ce qui est fascinant, c'est le ton presque amusé qu'on retrouve même chez les autorités. Des chefs de police, des shérifs disaient « Vous savez, on le cherche toujours. » Laissant même entendre une certaine sympathie pour le personnage. Il se mettait à sa place et pouvait facilement comprendre ses raisons.
Il ne reste pas non plus dans le secret de la clandestinité et qu'il exposerait en fait à une criminalisation non politique, mais il porte la revendication de responsabilité pour pouvoir avoir une tribune politique sur cette question et sur le fait que la loi est inachevée vis-à-vis de la pratique de certaines entreprises. Fox commence à agir en 1969. Ensuite, il y a les Journées de la Terre, et les Journées de la Terre publient un petit livre, un manuel de sabotage, une boîte à outils plus précisément, pour à la fois saboter, mais aussi identifier quoi saboter. Il faut avoir une hiérarchisation des structures à cibler. Et à partir de là, plusieurs groupes se le procurent et passent à l'action. Et ensuite, en 1972, est organisé un jeu, tout simplement, public, pour dire, eh ben, écoutez, vous tous, dans la multiplicité de vos domaines professionnels, eh bien, faites-nous remonter tout un tas de trucs et astuces pour essayer de faire obstacle, pour éviter des pollutions. Et il remonte de tout ça plusieurs petites actions, dont le témoignage de Fox fait partie.
On a également à cette époque des premiers exemples de dégradation de machines avec par exemple un mouvement mené par des agriculteurs dans le Minnesota qui sont surnommés les Bolt Weevils.
Les charançons du boulon qui sont en fait des agriculteurs qui sont scandalisés de l'expropriation qui les menace et donc à partir de là, ils vont déboulonner les grandes lignes de très haute tension. Ils sont appelés les charançons du boulon. Et puis, il y a aussi un jeune de 27 ans qui s'appelle Sam Lovejoy qui va, contre l'apparition d'une centrale nucléaire, faire tomber les pylônes qui étaient utilisés pour mesurer le vent, etc., qui sont tous les travaux préalables. Donc, on a tous ces petits groupes qui font parler d'eux.
Alors les années 60, c'est un moment très particulier dans l'histoire de la militance environnementaliste aux États-Unis, parce que c'est le moment de l'essor de l'environnementalisme moderne. Ce mouvement prend énormément d'ampleur. Les organisations qui existent déjà, comme le Sierra Club qui a été créé à San Francisco à la fin du 19e siècle, ou la Wilderness Society qui a été créée dans les années 30, ont beaucoup plus de membres que par le passé. De nouvelles organisations voient le jour durant cette période. Et surtout, les questions de pollution de l'air, de pollution de l'eau prennent une place de plus en plus grande dans le débat public, ce qui conduit le Congrès des États-Unis à voter plusieurs lois très importantes pour protéger l'environnement et pour lutter contre la pollution, plusieurs versions d'une loi qui s'appelle le Clean Air Act, par exemple. On a également le Clean Water Act. C'est également le moment où Richard Nixon, le président républicain, dans les années, à la fin des années 60 et au début des années 70, crée l'Agence fédérale de protection de l'environnement, l'Environmental Protection Agency. Donc on voit que c'est vraiment un tournant et le moment où l'environnementalisme occupe une place plus grande dans le débat public et a une influence beaucoup plus grande sur les politiques publiques.
Ce paysage écologiste, environnementaliste aux États-Unis, on peut schématiquement le diviser en deux branches, entre ce qu'on appelle le conservationnisme, donc l'idée de conserver la nature quoi qu'il arrive, une espèce de nature fantasmée. Et puis de l'autre côté, on a la branche du préservationnisme. Il apparaît qu'une troisième voie commence à se dessiner et qui dit il faut ni tomber dans l'extrême contemplation bourgeoise des parcs naturels, ni à adopter la position politicienne de gestion des ressources durables. Donc là, ce sont des petits groupes qui vont s'attaquer peu à peu à des infrastructures et à des projets qui sont considérés comme délétères pour l'environnement et la population. Parmi ces groupes, il y a Fox et d'autres, l'éco-commando Force 70, les Arizona Phantoms, les Billboard Bandits, les Echo Riders, qui donnent l'idée d'ailleurs à Edouard Abbé. Edouard Abbé utilise les Echo Riders comme la matrice d'inspiration de son livre « Le gang de la clé à molette ».
Clé à molette, baramine, pince coupante, coupe boulon, outil de terrassement.
Le roman « Le gang de la clé à molette » raconte l'histoire de quatre personnages dans le sud-ouest américain, Arizona, Nouveau-Mexique, Colorado, Utah, qui se découvrent une passion commune, défendre les terres collectives, le désert, les espaces sauvages, contre les ravages de la société industrielle. Leur lutte les conduit progressivement à saboter des engins, bulldozers, excavatrices géantes, machines d'exploitation minière, avec comme objectif ultime détruire le barrage de Glen Canyon.
Doc et ses trois comparses s'amusèrent à trancher du fil électrique, cisailler de la durite, couper du câblage de commande et sectionner du tuyau hydraulique sur le splendide Aister C450A flambant neuf. 27 tonnes, double tambour, diesel Caterpillar 330 HP, prix conseillé 29 500 $. Un des meilleurs, un petit bijou. Ils travaillèrent gaiement. Lorsque tout ce qu'ils pouvaient couper fut coupé, Smith ôta le bouchon du réservoir d'essence et y vida 4 bouteilles d'un litre de sirop Caro. Injecté dans le moteur, ce sucre allait former une épaisse couche de carbone sur les parois des cylindres et les segments de piston. Le moteur se figerait comme un bloc de fonte dès qu'il le ferait démarrer. Ils progressèrent ainsi, un engin après l'autre, s'enfonçant dans la nuit, avançant dans la file des machines.
Sous le prétexte de commettre un livre, ce que fait Edouard Abbé, c'est qu'il propose réellement un manuel de sabotage. Il a deux choses en tête. Ils vont détruire un canyon. Pourquoi il utilise cette image-là? Parce que tout simplement, à la fin des années 50, le Sierra Club, qui est l'organisation environnementaliste des États-Unis la plus représentée, trahit son engagement vis-à-vis du refus de construction d'un barrage. Pour lui, il y a vraiment une trahison de la part des institutions écologistes elles-mêmes. Il y a un passage vers une radicalité de l'action. Il ne va plus s'agir de bétoniser une canalisation, il va s'agir de détruire la canalisation. Et de fait, dans le gang de la clé à molette, effectivement, ils vont faire sauter un barrage.
Merci à Victor Cachard, Jean-Daniel Collomb, Anaël Châtaignier et Keith Woodhouse. Traduction et voix, June Lopère, Renaud Bertin. Prise de son, Delphine Baudet, Chantal Nouvelot et Noé Chabanne. Mixage, Nadège Antonini. Documentation, Annelise Signoret et Virginie Gresset. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Mr. Fox.
L'éco-saboteur.
Un renard contre l'industrie chimique. Une histoire particulière de Lila Bozès et Jean-Philippe Navarre. La suite dans le second épisode.